Bienvenue à tous. Au cours de la dernière décennie, de nombreux pays, surtout des marchés émergents, ont cherché à réduire leur dépendance au dollar américain dans les paiements internationaux. Cette tendance, appelée dédollarisation, n'est pas anodine. Elle remet en question des décennies de domination financière américaine.
Comme l'explique Hung Tran, cette dynamique s'accélère depuis l'invasion de l'Ukraine et les sanctions imposées par le groupe des Sept. Beaucoup y voient une réaction politique. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Derrière la géopolitique, il y a aussi des logiques économiques très concrètes.
Car sur le terrain, ce sont les entreprises privées qui décident en réalité quelle monnaie elles utilisent pour commercer. Et elles réagissent avant tout aux incitations financières, coût du capital, disponibilité des liquidités, accès au crédit.
Et c'est là que la situation devient intéressante. Pour la première fois depuis près de 20 ans, emprunter en renminbi à court terme coûte nettement moins cher qu'en dollars. Résultat, de plus en plus d'entreprises choisissent le RMB, non par idéologie, mais par efficacité économique.
Pour comprendre cette évolution, il faut replacer le débat dans son contexte. La domination mondiale du dollar a toujours fluctué. Près de 80% des réserves mondiales en 1970, environ 58% en 1980, 47% en 1990, puis un pic à 60 et 11% en 1999 avant de redescendre progressivement à 59% en 2020.
Aujourd'hui, l'usage croissant du RMB dans les paiements internationaux attire l'attention. Mais ce n'est pas une substitution frontale. La tendance principale reste l'utilisation croissante des monnaies locales dans les paiements transfrontaliers bilatéraux. Le RMB est simplement devenu l'acteur le plus visible.
En un an, les paiements mondiaux réglés en RMB ont doublé de 1,91% au début de 2023 à 4,60% et 1% en novembre de la même année. Certes, cela reste modeste, mais ces chiffres sous-estiment peu être la réalité, car les données SWIFT ne capturent pas les transactions via les accords bilatéraux de swap entre banques centrales.
Pourtant, il faut relativiser environ 80% de l'usage du RMB hors de Chine passe par Hong Kong. Sans ce hub, l'utilisation internationale de la monnaie reste faible. Mais pour Pékin, c'est déjà un succès stratégique. La moitié des échanges commerciaux chinois sont désormais réglés directement en RMB.
La guerre en Ukraine et les sanctions du groupe des Sept ont servi de catalyseur. Elles ont poussé beaucoup de pays à chercher des alternatives pour réduire leur exposition aux infrastructures financières occidentales. Mais Hung Tran insiste, la dédollarisation ne s'explique pas uniquement par les sanctions.
Même sans les sanctions, le dollar aurait probablement vu son rôle reculer. Pourquoi? À cause des vents macroéconomiques contraires, hausse des taux de la Réserve fédérale, appréciation du dollar, raréfaction des liquidités, tout cela pousse les entreprises à chercher des solutions moins coûteuses.
Certes, la Chine et la Russie sont les moteurs visibles de cette dédollarisation, mais leur commerce bilatéral ne représente que 27% de l'augmentation des paiements en RMB. Les 70% restants viennent d'accords avec d'autres pays, Argentine, Brésil, pays du Golfe, voisins asiatiques.
Pourquoi ces pays basculent-ils? Parce que emprunter en dollars est devenu beaucoup plus cher. Les hausses de taux de la Réserve fédérale ont augmenté le coût du financement commercial. Pour les entreprises, s'endetter en RMB revient souvent moins cher et surtout, les liquidités sont plus accessibles.
Depuis 2022, emprunter à court terme en RMB coûte environ 2 points de pourcentage de moins qu'en dollars. Pour les entreprises qui travaillent avec des partenaires chinois, ça change tout. Elles optimisent leurs marges en libellant leurs dettes en RMB. La Banque des règlements internationaux l'a confirmé, les banques exposées au financement en dollars à court terme ont réduit leurs crédits. Résultat, les entreprises se tournent vers les marchés obligataires en RMB. Entre janvier et octobre 2023, environ 125 milliards et demi de RMB ont été levés via des obligations, soit une hausse de 60 et 1%.
Et Pékin ne se contente pas d'attendre. Depuis 2015, la Chine développe son CIPS, un système alternatif à SWIFT, pour régler les paiements internationaux en RMB. De 480 milliards de RMB en 2015, il est passé à 33 billions et 400 milliards en 2023. Une montée en puissance spectaculaire.
L'initiative Ceinture et Route est aussi un levier. Pékin pousse ses partenaires à s'endetter directement en RMB. En 2020, les prêts libellés en RMB ont fini par dépasser ceux en dollars. Les écarts de taux d'intérêt ont clairement aidé à ce basculement.
Mais le RMB reste loin d'être parfait. Contrairement au dollar, il n'est pas librement convertible. les entreprises étrangères restent sous la surveillance du gouvernement chinois avec un cadre juridique moins transparent. Et les marchés financiers chinois restent beaucoup moins profonds que ceux des États-Unis.
Pour Hong Tran, la dédollarisation sera donc progressive, pas brutale. Le dollar reste dominant, mais son avance se réduit au profit d'une multipolarité monétaire où le RMB prend une place centrale, surtout dans le commerce asiatique.
La tendance va se poursuivre, portée par les marchés émergents qui cherchent à diversifier leurs risques. Mais tant que le RMB restera sous contrôle politique et que les marchés chinois seront limités, le dollar gardera un rôle pivot.
La véritable leçon, c'est que la finance mondiale bascule. Nous quittons l'ère où un seul centre dictait les règles pour entrer dans un nouveau paysage fragmenté. L'hégémonie du dollar s'effrite peu à peu et avec elle, l'illusion d'un système stable et unique.
Cette recomposition ouvre la voie à une mosaïque d'équilibres régionaux. L'Asie structure son propre réseau. L'Afrique cherche ses alliances. L'Amérique latine expérimente ses alternatives. Plus aucun acteur ne peut prétendre contrôler seul la tuyauterie de la finance mondiale.
Et c'est précisément là que réside l'urgence pour les décideurs politiques. Ne pas comprendre ces dynamiques, c'est risquer de répondre avec des outils d'hier à des défis d'aujourd'hui. Mal lire cette transition pourrait enfermer des économies entières dans des stratégies dépassées. Parce que derrière les chiffres et les flux financiers, il y a une guerre silencieuse, monnaie contre monnaie, bloc contre bloc, récit contre récit. Mal anticiper, c'est perdre du terrain, céder de l'influence et voir son destin dicté par d'autres. Dans ce nouveau monde, chaque erreur se paiera très cher.
Le principal frein reste la non-convertibilité totale du RMB. Les entreprises étrangères opérant en RMB dépendent du contrôle du gouvernement chinois, ce qui pose des problèmes de sécurité juridique et de transparence, surtout pour les sociétés occidentales.
Et du côté des marchés financiers, la Chine est-elle en position de rivaliser avec les États-Unis?
Pas encore. Les marchés obligataires chinois, par exemple, sont beaucoup moins développés et liquides. 8 000 milliards de dollars contre près de 30 000 milliards pour les bons du Trésor américain. Cela limite la capacité du RMB à devenir une monnaie de réserve mondiale.
Malgré ces limites, la dynamique de diversification monétaire s'installe durablement, portée à la fois par des forces macroéconomiques profondes et par des réalités géopolitiques incontournables. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet éclairage sur les enjeux et les perspectives de la dédollarisation. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.